L'ARCOM, l'autorité publique indépendante française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Nous avons le plaisir de recevoir son nouveau président, Martin Hajdari, en poste depuis février dernier, qui nous accorde cette interview dans le cadre de cette 18e édition des Assises du journalisme. Bonjour, monsieur Hajdari.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Aujourd'hui, on sait qu'une grande partie de la population s'informe et consulte des contenus audiovisuels sur Internet et ses diverses plateformes. Selon les chiffres de l'ARCOM, du projet stratégique 2023-2025, on sait que 32% des Français utilisent Internet comme première source d'information, une proportion qui s'élève à plus de 66% pour les moins de 35 ans et plus de 50% de la consommation vidéo totale des 15-24 ans est sur Internet, devant la télévision 29% et les services de vidéo à la demande 19% en 2020. Nous citerons ici une ligne du même document, je cite « Les plateformes en ligne permettent un accroissement du champ d'application des libertés publiques et en premier lieu de la liberté d'expression en offrant d'autres espaces de parole et de nouveaux canaux de diffusion. »
En effet, on constate une réelle évolution de l'audiovisuel, de sa consommation et de ses canaux de diffusion, ce qui entraîne donc évidemment de nouveaux enjeux. Alors justement, quels sont les nouveaux enjeux pour l'ARCOM lorsqu'il s'agit de la régulation des contenus sur Internet? Comment l'ARCOM collabore avec les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, X ou les plateformes telles que YouTube, Dailymotion en matière de contenu?
Merci beaucoup. Tout d'abord, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ces nouveaux réseaux, ces plateformes sont des espaces de communication nouveaux qui sont une opportunité formidable pour que la population, les communautés puissent échanger de manière beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus décentralisée que sur les médias historiques qui sont plus sur le mode du broadcast, sur un mode plus unidirectionnel. Ensuite, évidemment, la régulation, elle est très différente selon que vous êtes sur une communication audiovisuelle classique ou sur des réseaux numériques, réseaux sociaux, plateformes, où vous avez des millions de producteurs de contenu, des millions de destinataires différents, et vous ne pouvez pas les contrôler tous. D'ailleurs, souvent, ça n'a pas d'enjeu, puisque souvent, ce sont des contenus échangés entre quelques personnes, quelques individus, ou dans des groupes relativement restreints. Ce que nous faisons en termes de régulation, en revanche, et qui est organisé au niveau européen, c'est une régulation qu'on qualifie de systémique, qui vise les plus grandes plateformes, celles qui concentrent le trafic le plus important. Donc les grandes plateformes ou moteurs de recherche que vous avez cités, que l'on connaît, les Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, Google, qui, pour être concernés par cette régulation, doivent recueillir plus de 45 millions d'utilisateurs. Pourquoi 45 millions? Ça fait 10% de la population européenne. Et au niveau européen, on met en place un ensemble de règles qui sont à mi-chemin entre la régulation et la supervision, des règles qui permettent de lutter contre les risques systémiques que posent ces plateformes. Encore une fois, ce sont des opportunités pour la création et la circulation de contenu, mais aussi des risques, on les connaît. Risques en termes de haine en ligne, risques d'atteinte portée aux enfants et aux mineurs, risques d'atteinte à la propriété intellectuelle, risques de diffusion massive d'informations fausses qui peuvent déstabiliser les processus électoraux ou faire peser des risques pour la santé publique. Donc ces risques-là, ils sont existants, on les observe de plus en plus. Et la régulation qui est mise en place au niveau européen, elle vise à discuter avec ces plateformes, leur demander de mettre en place toute une série de dispositifs. Par exemple, de la modération de contenu. Lorsque des contenus sont illégaux, on peut les signaler à ces plateformes et elles doivent s'organiser, avoir des ressources en interne pour les retirer, vérifier si c'est justifié et les retirer. Une autre catégorie de mesures consiste à faire la transparence sur les algorithmes. Quel type de contenu sont poussés selon quels critères? Comment peut-on éviter que ces algorithmes soient discriminatoires ou qu'ils profilent les cibles de leurs règles de diffusion en fonction, par exemple, des opinions politiques ou des catégories de population? Donc un ensemble de mesures qui doivent faire de ces plateformes, de ces réseaux, des espaces sûrs, notamment en termes d'information, pour qu'ils contribuent au développement de la société plutôt qu'il ne lui porte atteinte.
On va enchaîner avec la seconde question. On va revenir un petit peu aussi sur les médias traditionnels et un petit peu le lien en fait entre les deux. Aujourd'hui, si une chaîne, par exemple, elle cesse d'émettre sur la TNT suite donc à une décision de l'ARCOM, son contenu, il peut tout de même être diffusé librement sur les diverses plateformes disponibles sur Internet, dont on les citait justement à l'instant, et sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous ? Surtout que du coup, il y a quand même quelques exemples dernièrement dans l'actualité.
J'ai l'impression que vous avez effectivement un exemple en tête. Écoutez, c'est une très bonne question qui montre d'ailleurs que le fait qu'une autorisation d'émettre ne soit pas renouvelée pour une chaîne, puisque c'est ce qui s'est passé en l'espèce, après 20 ans d'autorisation d'émettre, une mise en concurrence, cette fréquence n'a pas été renouvelée. Ça n'empêche pas pour autant l'émission de continuer à exister si elle est produite, d'être diffusée, en l'occurrence sur du câble ou des réseaux câbles ou satellites, mais aussi sur YouTube, Dailymotion, des plateformes de partage de vidéos. Alors, moi j'en pense du bien, puisque ces plateformes sont là aussi pour diffuser des contenus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même sur des réseaux câblés, et a fortiori même sur YouTube ou Dailymotion, il y a des règles à respecter. Lorsqu'on est un service de communication audiovisuelle, et a priori une émission est un service de communication audiovisuelle, sur un réseau comme YouTube qui est très ouvert, à peu près à toute la population, vous avez des règles à respecter. Ce ne sont pas les mêmes règles que celles qui s'imposent à une chaîne de télévision. Typiquement, une chaîne de télévision doit financer la création audiovisuelle, financer le cinéma. On ne demande pas ça aujourd'hui à une émission, un contenu audiovisuel présenté sur YouTube. En revanche, en matière de respect de la dignité de la personne humaine, en matière même de pluralisme ou d'honnêteté de l'information, on peut demander, contrôler et demander s'il y a des signalements à des émissions de respecter nos règles, même si elles sont diffusées sur une plateforme de partage de vidéos.
Mais vous parlez du coup, vous parlez du respect de la dignité humaine justement, donc qui est quelque chose d'important, pour l'ARCOM, donc du coup sur la télé là en l'occurrence. Mais du coup, ces contenus-là, on peut encore les retrouver justement sur YouTube. Au final, est-ce que ça pose pas toujours un problème, puisque en fait, le public a toujours autant accès en fait à ces émissions ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose maintenant ?
Alors, il y a deux choses différentes. De manière générale, ce qui est illégal à la télévision est aussi illégal en ligne. Et dans ce cas-là, la justice peut intervenir et constater l'illégalité d'un contenu et permettre derrière des poursuites. Du point de vue de la régulation audiovisuelle, qui est administrative et pas pénale cette fois-ci, on a des moyens d'action qui peuvent être plus importants sur une chaîne de télévision. Mais néanmoins, on peut intervenir aussi lorsqu'il s'agit de communication audiovisuelle sur YouTube, et il n'y a pas d'espace d'impunité. Il y a simplement une gradation dans les engagements, les contreparties, ce que nous vérifions comme régulateurs, qui ne sont pas de la même intensité selon qu'on est sur une chaîne de télévision ou sur une vidéo diffusée sur YouTube ou Dailymotion. Mais il n'y a pas d'espace de non-droit complet. En particulier pour le respect de la dignité de la personne humaine.
Par rapport au DAB+, qui n'est pas encore très répandu et connu dans les radios, quelle est votre stratégie de communication sur cette arrivée du DAB+ ?
Alors, le DAB+, il est connu quand même parmi les radios. La difficulté, c'est qu'il soit vraiment connu parmi la population et que donc la population fasse un mouvement d'équipement au-delà de l'installation native dans les autoradios notamment qui est déjà acquise. Pour ce faire, l'ARCOM a publié un livre blanc de la radio il y a un peu moins d'un an qui a regroupé un ensemble de mesures visant à populariser le DAB+ et aussi promouvoir différentes dispositions réglementaires qui permettront à cette norme de s'imposer. Un des points importants a été aussi la constitution d'une association Ensemble pour le DAB+, qui, elle, va maintenant devoir porter de manière autonome, parce que le régulateur n'est pas là pour porter une norme en tant que telle. Il est là pour faciliter le potentiel, la réalisation d'un potentiel. Il faut que cette association Ensemble pour le DAB+ convainque maintenant les pouvoirs publics d'accompagner financièrement, juridiquement, réglementairement pour l'installation des puces DAB+ dans l'ensemble des terminaux, pour que ce mode de diffusion devienne une vraie réalité dans une majorité de la population, là où aujourd'hui elle couvre la majorité de la population, mais l'ensemble de la population n'est pas équipée pour la recevoir.
Merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.